Radio Kapi. Oh, Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Kiwanja, au Nord Kivu. Deux titres pour cette édition, 13 215 000 voix de suffrage exprimées, soit 63,34% pour Félix Tshisekedi. Les résultats provisoires de la présidentielle de décembre 2023 annoncés hier dimanche ici à Kinshasa par la CENI portant Félix Tshisekedi vainqueur. Nous revenons sur les attentes, l'ambiance qui a prévalu dans certaines villes du pays, mais aussi sur les réactions qui continuent à nous parvenir. Couverture médiatique du processus électoral, mise en échec, constat du journaliste et patient Ligodi d'actualité.cd et correspondant des RFI à Kinshasa. L'invité de ce journal propose notamment des aides à la presse et des allègements fiscaux pour rendre le journalisme plus vital et viable en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire, les détails dans quelques instants. Vous êtes sur la fréquence de la paix et vous avez raison. Bonjour, bienvenue, bonne écoute et surtout, bonne année 2024. Encore une fois, meilleurs vœux. Félix Tshisekedi, proclamé provisoirement président élu de la RDC pour un second mandat de 5 ans lors du scrutin du 20 décembre dernier. Il a été réélu avec plus de 13 215 000 voix de suffrage exprimées, soit 73,34%. Denis Kadima, président de la CENI, l'a annoncé hier après-midi depuis le centre Bosolo, ici à Kinshasa. D'après ses résultats, sur 41 738 628 électeurs attendus, 18 045 348 Congolais ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Direction tout de suite la province de la Tshopo à Kisangani. La population s'est réjouie de la réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi. Si ces résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle, déclare la plupart des Boyomé, le président réélu devrait changer le fusil d'épaule en s'occupant du social de la population ainsi que de la pacification du pays. Un reportage de Jacques Moukonkoli.
La joie était totale au centre-ville de Kisangani après la publication des résultats provisoires par la CENI. Des chansons et danses ont été exhibées par les Boyomé qui ont élu massivement Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques-uns justifient leur choix.
Nous sommes dans la joie parce que c'est le fils du pays qui a rapporté les élections. Vraiment, on est heureux parce que on sait que c'est un homme des actions. Le pays va aller très bien encore.
Derrière sa vision, nous avons compris que c'est quelqu'un qui va vraiment amener ce pays dans le bon port.
Il est élu parce que d'abord, il a effectué la gratuité de l'enseignement.
La réélection du chef de l'État ne devrait pas être une fin en soi. Félix doit s'occuper du social et pacifier complètement le pays, souhaitent les Boyomé.
Nous voulons premièrement que l'est du pays soit complètement sécurisé et qu'il touche au social de la population parce que la population souffre.
Nous attendons de lui, surtout nous de la Tshopo, la route RN4, et puis pour ceux qui sont de l'est, là où il y a à chaque fois des atrocités, des guerres, ils attendent la paix et puis
fournir des emplois, à part l'emploi, et voir aussi les secteurs de l'agriculture.
Cette étape étant franchie, les yeux sont actuellement tournés vers la Cour constitutionnelle. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Cap.
Voyons maintenant quelle a été ou quelles sont les attentes de la population des provinces du Haut-Lomami, du Lualaba et du Haut-Katanga avec les réactions des présidents de la société civile ou des sociétés civiles de ces différents milieux. Jean Gandou, reportage.
Comme lors de son premier quinquennat, le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi suscite les attentes dans plusieurs domaines selon que l'on se retrouve dans tel ou tel autre coin de la République. À Bukama, dans les Haut-Lomami par exemple, parmi les priorités, on note la réhabilitation de la nationale numéro 1. Augustin Monga, activiste des droits de l'homme.
Nous réhabiliter la route nationale de Lubumbashi au Kasai. Une demande d'un grand transfert pouvant aider toute la cité de Bukama. On demande qu'on puisse réellement draguer de parties où l'inondation vraiment excelle. Nous demandons encore que le chef de l'État puisse s'atteler juste à l'agriculture en réhabilitant les routes de dessertes agricoles.
Dans le Lualaba, Shadrach Moukad, président du cadre des concertations de la société civile, estime que les attentes de la population portent entre autres sur
une bonne redistribution des richesses de la province. Il y a aussi les secteurs fermier artisanal. Que les créseurs aient des espaces propres à eux qu'on appelle zone d'exploitation artisanale.
Et Léo Katanga mise sur l'amélioration des besoins sociaux des bases. Guilain Tchoulou.
Que la population puisse avoir accès aux soins, à l'électricité, à l'eau. Il faut que la paix règne pour que nous puissions nous développer.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, plusieurs défis restent encore à relever pour le développement de la province du Kasaï oriental. Écoutons à ce sujet les attentes de la population de Mbujimayi pour ce second mandat du président de la République.
Pour son deuxième mandat, qu'il concrétise sa promesse de pouvoir relever ou relancer la société minière de Bakouanga qui constitue le poumon économique de notre province du Kasaï oriental.
Mais ce que nous lui demandons, c'est d'abord les routes de desserte agricole. Entre autres, la route Mbujimayi, Kananga et Kalambambuji. Parce que nous avons besoin de cette route-là pour booster le développement de notre province.
Nous demandons au président, c'est l'achèvement de chantiers sur toute l'étendue de notre province, le Kasaï oriental. Comme les chantiers, tu les gèles lourds, c'est le projet de 145 territoires, c'est tout ce que nous demandons au président.
Pour le deuxième mandat, qu'il puisse augmenter la production de produits agricoles, parce que c'est celle alternative pour les emplois et nourrir la population.
Ce que je demande au président de la République, une seule chose, le désenclavement de la province. Si ce n'est pas fait, donc on va encore rester stagnant, rien ne va avancer.
Et dans la province du Nord Kivu, la population des Rutshuru attend le rétablissement de l'autorité de l'État dans ce territoire pour qu'elle se choisisse aussi ses représentants à l'Assemblée nationale et provinciale. C'est ce qu'a dit hier dimanche Jean-Claude Babangé, président de la société civile du territoire des Rutshuru, en déplacement à Goma depuis plus d'une année maintenant. Pour lui, les populations des Rutshuru et Masisi n'ayant pas été associées au choix du président de la République, elles attendent du nouveau gouvernement des actions qui vont mettre fin à la rébellion du M23 dans leur territoire. Jean-Claude Babangé est au micro de Rosalie Zawadi.
Nous, ce qu'on attend, c'est en fait l'organisation des élections dans ces deux territoires qui ont été exclus parce que vous savez que comme au niveau de la province, par exemple, où Rutshuru-Masisi compte 15 députés, comment on va mettre en place l'Assemblée provinciale sans Rutshuru-Masisi? Comment on va mettre en place l'institution provinciale, notamment le gouvernement sans Rutshuru? Donc bref, nous pensons que l'organisation des élections dans le Rutshuru est vraiment une urgence pour qu'il y ait une bonne marche des institutions, surtout au niveau de la province. Mais également, on ne sait pas comment ça va se passer pour les députés de Rutshuru qui devaient aller siéger au niveau de l'Assemblée nationale pendant que Rutshuru n'a pas élu. Ça, c'est aussi une question. Et que donc notre demande, c'est que le gouvernement qui va être mis en place après cette publication s'attelle sur des questions sécuritaires de l'Est. Il faut que ce gouvernement, en tout cas, mette fin à cette rébellion pour permettre que les élections aussi aient lieu, afin que Rutshuru et Masisi aient aussi des représentants.
Et du côté de Mandaka, la société civile appelle toute la population à accepter les résultats provisoires publiés par la CENI. Fabien Mungunza, président du cadre de concertation de la société civile de l'Équateur, a aussi demandé à ceux qui ont des contestations de les faire devant les cours et tribunaux. Il est au micro de Paul-Richard Malengela.
Oui, en tant que société civile, nous saluons cet aboutissement. Parce que sincèrement, même s'il y a eu des irrégularités, nous avons pensé après analyse que ces irrégularités n'étaient pas de nature à impacter négativement les scrutins. Et ces résultats-là étaient particulièrement attendus, surtout pour nous dans la ville de Mbandaka et la province de l'Équateur. Nous croyons que ces résultats-là est vraiment la vérité des urnes, comme nous l'avons toujours déclaré. Nous avons analysé ces irrégularités à travers la province de l'Équateur, mais nous avons pu constater qu'elles n'étaient pas de nature à impacter les résultats des urnes. Et nous pensons plutôt qu'il appartient, n'est-ce pas, aux cours des tribunaux qui vont examiner les contentieux et même à la CENI qui a mis en place une commission pour les examiner, de pouvoir identifier, poursuivre et sanctionner, pourquoi pas significativement, les auteurs de ces irrégularités.
Et le nouveau président de la RDC doit consacrer son second mandat à la restauration d'une paix durable à l'est du pays, affectée depuis plusieurs décennies par l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Cela en vue de permettre aux milliers de déplacés qui vivent encore dans les sites de retourner dans leur milieu d'origine. Cette réaction est de la coordination de la société civile de l'Ituri. Pour Dédoné Lossa, coordonnateur de cette structure citoyenne, le chef de l'État qui est reconduit à la tête du pays doit également améliorer la gouvernance et les infrastructures routières. Il a été joint par Ezekiel Mouzalia.
Cette proclamation vient justement renforcer la gouvernance en RDC. Pour la population de l'Ituri, une population dont la majorité se trouve dans les sites de déplacés, une population entre les mains des miliciens. Nous attendons à ce que ce président élu proclamé, qu'il soit quelqu'un qui va prendre à cœur la situation de l'Ituri et permettre à la population qui se trouve dans les sites de déplacés de revenir dans leur vie habituelle. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, a connu des difficultés pour se déployer à l'intérieur des provinces à cause de l'impraticabilité des routes. Et nous croyons que parmi les préoccupations de ce nouveau président, nous aimerions également que la route RN27 soit asphaltée parce que c'est la seule route dont départ la province de l'Ituri exclusivement. Il y a à côté de celle-là, la RN4 également, qui fait problème. Aujourd'hui, on ne sait pas arriver à Kisangani.
Restons sur les réactions, mais cette fois à l'échiquier international. Des chefs d'État et d'autres acteurs politiques saluent la réélection de Félix Tshisekedi après la publication des résultats provisoires par la CENI. C'est un condensé de Cynthia Bachizi Nabizana.
Le président des Comores était parmi les premiers dirigeants à réagir. Azali Assoumani a félicité le président Tshisekedi, son successeur à la tête de l'Union africaine. Vient ensuite les dirigeants du bloc de la Communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC. C'est notamment le voisin burundais, le président Evariste Ndayishimiye, qui a également adressé ses félicitations à son homologue Félix Antoine Tshisekedi. Il a formulé le vœu d'une résolution pacifique en cas de contentieux électoral à travers les canaux légaux. Même son de cloche du côté de la présidente de la Tanzanie, Suluhu Samia se réjouit de continuer à travailler avec le président Tshisekedi. Du côté de la SADC, la réélection de Félix Tshisekedi est saluée par un poids lourd de la communauté des États de l'Afrique australe, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Le président sud-africain, tout en saluant la victoire de Félix Tshisekedi, félicite le peuple de la RDC qui, selon Cyril Ramaphosa, a fait un pas solide vers la consolidation de la démocratie et a exprimé son désir d'un avenir pacifique, sûr et prospère. Le numéro 1 sud-africain invite les participants qui contestent les résultats des élections de suivre les voies légales prévues par la constitution de la RDC. Toujours du côté sud-africain, l'ANC, principal parti politique en Afrique du Sud, félicite également Félix Tshisekedi pour sa victoire écrasante, soulignant le caractère dynamique du processus électoral. L'une des réactions en dehors du continent nous vient de la France. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, principal parti d'opposition et proche de l'extrême droite sur l'échiquier politique en France, a exprimé ses félicitations au président Tshisekedi et a envoyé des vœux de paix au peuple congolais.
Et puis, dans un communiqué signé par la rapporteure de la CENI et publié hier dimanche soir, la centrale électorale rappelle aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques qui voudraient contester ces résultats provisoires qu'ils ont deux jours, soit les 2 et les 3 janvier 2024, pour déposer leur recours à la Cour constitutionnelle. Cette Cour a, elle, 7 jours, soit du 5 au 11 janvier pour traiter de ces recours. La publication des résultats définitifs devra intervenir le 12 janvier 2024. À Beni, en Nord-Kivu, pas de réel engouement festif dans la ville, comme lors de la fête de Noël d'ailleurs. Pour de nombreux habitants, cette journée est plutôt consacrée à l'action de grâce. Ils étaient nombreux, des femmes et des hommes, qui ont pris part aux différents cultes religieux célébrés à travers la ville. Une façon, selon eux, de rendre gloire à Dieu. Gulen Kastasia pour plus de détails.
À la paroisse catholique des Tamins de où nous sommes allés, l'église était pleine à craquer de fidèles venus pour rendre grâce à Dieu pour sa protection. Baudouin Mbagna est l'un d'eux.
Personnellement, je suis venu prier parce que c'est un jour inoubliable. La fin de l'année et le début de l'année 2024. Alors, c'est une grande joie que nous puissions aujourd'hui être dans la paix qui nous amène à venir nombreux.
Dans certains quartiers où nous nous sommes rendus, l'ambiance était plutôt paisible. Aucune manifestation particulière à travers la ville. Même la proclamation des résultats de l'élection présidentielle d'hier n'a pas créé dans les rues de Beni une quelconque effervescence. Plusieurs parents rencontrés affirment avoir tout consommé pendant la fête de Noël, ce qui ne leur a pas permis d'offrir des repas copieux à leur famille. C'est ce qu'est dit Adolphine Massika, rencontrée à Mabakanga.
On a tout consommé pour le Noël, puisque Noël, c'est la
la fête des enfants. Mais la fête des bonnes années, nous remercions Dieu de nous donner grâce d'arriver à cette année. Mais paix que nous allons trouver, on va consommer aussi avec joie.
Et pendant ce temps, les personnels des buvettes étaient à pied d'œuvre pour apprêter les espaces à leurs clients qui habituellement arrivent l'après-midi pour fêter à leur manière la nouvelle année. Béni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Clôturant cette tournée des provinces par cette brève, dans la province de la Tchopo, le prix du carburant est revu à la hausse depuis hier dimanche, revu plutôt à la baisse depuis hier dimanche à Kisangani, chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. Un litre d'essence est actuellement vendu entre 4500 et 6000 francs congolais. Cette baisse est consécutive à l'approvisionnement des stations-service, ceci grâce à un bateau pétrolier dépêché par le gouvernement central. Rappelons qu'avant l'arrivée de ce bateau, un litre de carburant se vendait chez les mêmes revendeurs entre 15 000 et 20 000 francs congolais, voire même 22 000 francs congolais.
Actualité internationale.
Aux Comores, à moins de deux semaines du scrutin présidentiel prévu le 14 janvier 2024, la campagne, démarrée depuis le 17 décembre dernier, a du mal à décoller. Les Comoriens choisiront leur prochain président qui dirigera le pays au cours des cinq prochaines années. Six candidats, dont l'actuel président Azali Assoumani, sont en liste pour cette élection cruciale. Île Maurice, la double hausse des salaires minimum prévue en janvier 2024, telle qu'annoncée par le gouvernement mauricien, suscite espoir et inquiétude. Une mesure qui concerne plus de 460 000 actifs. Si les syndicats saluent cette décision, les industriels et les économistes, eux, s'interrogent.
L'invité.
Le travail des journalistes a été mis à l'échec pendant la période électorale par la propagande politique imposée par ceux qui avaient plus de moyens. C'est ce que pense le journaliste Patient Ligodi d'Actualité.cd et correspondant de la Radio France Internationale, RFI, à Kinshasa. Également enseignant des sciences de l'information et de la communication, Patient Ligodi propose notamment des aides à la presse et des allègements fiscaux pour rendre le journalisme plus vital et viable. Il s'entretient avec Grâce Amzati Massanzi.
Patient Ligodi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suffisamment couvert les processus électoraux jusqu'à l'étape où nous sommes, l'étape de la proclamation des résultats provisoires. Est-ce que ce travail a été facile pour vous en tant que journaliste?
Non, ça n'a pas été facile. C'était un grand défi, un très très grand défi. Eu égard, déjà, ce que nous avons proposé, c'est que nous devons proposer. Nous voulions proposer un débat, véritablement un débat. Nous voulions imposer un débat intéressant aux candidats, président de la République par exemple. Que ce soit dans le secteur de l'économie, que ce soit dans le secteur de la sécurité, que ce soit dans la société en général, avec de grandes thématiques. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu parce qu'on a un système électoral à un seul tour. Conséquence, les candidats qui ont beaucoup de moyens imposent, on va dire, une sorte de thématique qui fait en sorte que, comme ils ont beaucoup de moyens de communication, ils ont beaucoup de moyens également de transport, ils imposent leur thématique dans l'espace public congolais. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que tous les grands candidats, entre guillemets, possèdent des chaînes de télévision ou dominent ou ont une, on va dire, une mainmise sur des moyens de communication de masse. En 2018, le président sortant n'avait pas, on va dire, une grande mainmise sur les réseaux sociaux, par exemple. On avait les mouvements citoyens qui étaient au top dans la proposition des débats, ainsi de suite, et qui mettaient vraiment beaucoup de pression. Mais pour 2023, on remarque particulièrement que les candidats avaient plus de possibilités de pouvoir engager les influenceurs sociaux, de pouvoir investir Twitter, Facebook, YouTube et consorts, de payer même de la publicité en ligne pour en fait être le plus visible. Pour moi, si on me pose la question, je dirais que le journalisme a été mis à l'échec par la propagande politique imposée par ceux qui avaient plus de moyens. Ceux qui ont tenté parmi les journalistes d'imposer, on va dire, un journalisme indépendant, se sont butés à un problème d'argent et de moyens et ne pouvaient pas donc faire face à ces dictats des moyens, des gros moyens de communication mis en place par les différents candidats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que les journalistes n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se déplacer comme ils l'auraient souhaité. Il n'y a pas d'avion. Même les candidats s'en sont plaints. À l'époque, on pouvait être dans un avion de la MONUSCO et espérer bouger. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on se retrouve dans une situation où soit vous êtes embarqué dans un avion qui appartient ou bien qui est loué par un candidat président de la République, soit vous vous contentez de ce qu'il vous donne. À la limite, vous faites travailler
également vos correspondants.
Malgré toutes ces difficultés, quel a été l'impact du travail des journalistes dans ces processus électoraux, contrairement au processus précédent? Et comment, selon vous, les journalistes se sont en sortis de ces difficultés-là?
Alors, les difficultés ont été importantes, comme je venais de le mentionner. Comment les journalistes? Beaucoup se sont fait acheter, on l'a vu. Beaucoup ont accompagné de manière partisane des hommes politiques, et c'est bien dommage. Mais il y a quand même une frange, je vois par exemple ce qui s'est passé au centre Bossolo, où vous avez quelques petits bastions du journalisme qu'on a pu remarquer, avec notamment Radio Capi, Actu 30, Actualité.cd, 7 sur 7, ou encore Top Congo. Mais c'est rien par rapport, on va dire, aux médias importants qu'on a dans ce pays. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation où très peu des journalistes ont fait du journalisme. Et beaucoup ont fait de la propagande, beaucoup ont abandonné, constatant que c'est difficile justement de pouvoir imposer, on va dire, un journalisme indépendant dans un contexte de pauvreté, dans un contexte également de précarité en termes de sécurité, et également dans un contexte d'absence d'ambition éditoriale pour beaucoup de médias.
Marcel Ligaudi, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le travail des journalistes a impacté positivement au résultat qui place Tshisekedi vainqueur et impacté à l'échec des autres candidats?
C'est difficile à dire, mais dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, dans la mesure où la thématique majeure pour le président de la République avait été notamment un discours très identitaire, et un discours contre le Rwanda, un discours contre les candidats entre guillemets de l'étranger et consorts. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ces discours. À tort ou à raison, je ne donne pas de jugement, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On se retrouve avec les gros médias qui ont relayé à longueur de journée également ces discours. Donc on va dire qu'il y a eu un impact plutôt négatif aussi des médias qui sont entre guillemets sous influence des différents candidats.
Patient Ligaudi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Patient Ligaudi, journaliste aux médias en ligne, Actualité.cd et correspondant de la Radio France Internationale à Kinshasa, était l'invité de ce journal. Il était avec grâce Amzati Massanzi. Cette édition a été supervisée par Martin Sebou-Djangoué et mise en onde par Polydor Basunga. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à Radio Capi. Bonne fête de la Saint-Sylvestre.